quand des nouveaux entraîneurs commencent dans le domaine, oui, tu vas avoir des systèmes. Puis oui, on va te donner des trucs qui sont, comme on dit en anglais, des « half-truths ». Donc, des trucs qui sont comme genre à moitié vrai. Que, tu sais, ça va fonctionner pour 60, 70 ou peut-être 80 % de la population, mais ce n'est pas une vérité avec un V majuscule.
Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte.
Bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast More Brain, More Gains. Donc aujourd'hui, j'ai un invité qu'on reçoit sur le plateau. Donc ça fait, je pense, trois fois, ça va être sa troisième fois qu'il vient sur le podcast. Donc c'était avec Jacob dans le temps et on reçoit dans le fond Étienne Asselin qui est finalement un de mes mentors à travers la biomécanique aussi, mais aussi beaucoup au niveau de l'enseignement. Donc bref, c'est comme bonjour Étienne.
Bonjour.
Merci d'être sur le podcast.
Ça fait un plaisir, merci de me recevoir.
Puis c'est ça. Puis avant de commencer le podcast, dans le fond, j'aime ça raconter une petite histoire. Donc, tu sais, je t'ai connu, Étienne, je pense que c'était en 2015, là, tu faisais des capsules avec Jacob dans le temps. Puis je me suis dit, comme ce gars-là, il connaît son truc. J'étais comme... Puis c'est comme ça que j'ai connu, j'ai commencé à te suivre finalement, puis tout ça. Puis on s'est rencontrés, je pense que la première fois, c'était dans un cours de l'Institut IP avec Matt Boulay. Back in the days.
Fait que H2, je pense.
Non, c'est avec au gym de Julien, Recharge Fitness, dans le fond, à Montréal.
Okay. Ouais.
Puis, tu sais, ça fait quand même une couple d'années déjà. Puis, c'est là que j'ai commencé à te connaître tout ça. Puis, finalement, après ça, j'ai été engagé chez Quantum. Puis, finalement, t'es venu faire des mentors avec nous autres. Puis là, c'est là, je me suis rendu compte que, OK, t'sais, une des choses qui m'a frappé chez toi, Étienne, c'est justement ta précision puis la façon dont tu expliques les choses sans avoir justement de biais en soi. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis je pense que c'est quelque chose que justement j'essaie de faire de plus en plus. Puis justement comme de m'inspirer toi finalement. Donc je te remercie pour ces connaissances-là de un. Puis justement l'expérience que tu amènes aussi de deux. Puis c'est un peu aussi de ça que je voulais parler aujourd'hui dans le sens que moi, je t'ai connu à peu près autour de 2015 dans ces eaux-là, mais c'était qui, Étienne? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es arrivé présentement où tu es aujourd'hui? C'est où c'est commencé? Parce que finalement, pour les gens qui ne connaissent pas Étienne, dans le fond, c'est un spécialiste en biomécanique. Il travaille beaucoup, dans le fond, corrige-moi si je me trompe, mais l'idée, c'est que tu travailles beaucoup avec des gens qui ont des problèmes, finalement, musculo-squelettiques en soi. Puis, dans le fond, tu fais des séminaires aussi, des mentorats sur la biomécanique et puis la gestion de la douleur en soi. Donc, c'est un peu ça que tu fais, ou que je perçois que tu fais finalement.
Oh oui, mais tu as raison en fait, oui.
Puis, fait que c'est ça, j'aimerais savoir de où c'est parti dans le fond, c'est quoi ton background, puis jusqu'à aujourd'hui finalement.
Sure, oui. Ben écoute, ben, merci aussi pour les compliments. Le fait que, tu sais, le détachement émotif par rapport aux concepts, puis à nos biais, puis à nos, pas nécessairement nos connaissances, mais comme nos, like our beliefs, nos croyances. Ça, c'est une idée ou c'est un concept que je tiens vraiment à cœur. Puis je pense pas vraiment que notre industrie va être capable de progresser au fil du temps sans avoir une pensée critique et avoir un certain détachement émotif de nos croyances. Parce que sinon, tu sais, on va être attaché à notre passé, en fait. Fait que c'est vraiment essentiel d'avoir d'avoir une pensée critique et de deux, d'être détaché de nos croyances. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Fait que je suis vraiment content que c'est une des premières affaires que tu as soulevé aujourd'hui puis qui t'a vraiment frappé de notre temps ensemble. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Par rapport à mon cheminement, je vais être honnête, tu sais, comme il y a beaucoup de stock, tu sais, on ne veut pas faire un podcast de 3 heures non plus. Fait que je vais essayer de garder ça quand même assez précis. Mais essentiellement, mon background est ancré à de la frustration. Frustration, pardon. Puis ce que je veux dire par ça, c'est que ça a tout commencé quand j'ai commencé à travailler à Good Life à Ottawa. Et j'avais des, j'étais nouveau comme entraîneur avec essentiellement aucun background, sauf pour mon éducation avec CanFit Pro à ce temps-là. Puis j'avais des clients qui investissaient 7, 8, 9 000 $ pour travailler avec moi. Et tu sais, je leur faisais des promesses. Je leur disais, oui, je vais t'aider avec perte de poids, des recompositions corporelles, être plus fort, etc. Et tout, de façon générale, tout allait bien, de façon générale, pour monsieur, madame, tout le monde, sauf pour une catégorie, entre autres. Puis c'était la catégorie de la douleur et la réhabilitation, puis des muscles tendus que, tu sais, que j'avais beaucoup moins de succès dans cette catégorie-là en ce qui concerne aidant du monde. Vas-y.
Puis je pense qu'on s'entend pour dire que quand on travaille chez les Good Life Fitness ou Energy Cardio ou vraiment des gyms plus commerciaux, finalement, on peut s'entendre que la majorité de ces clients-là ont des douleurs ou des inconforts ou ont des problèmes musculo-squelettiques. Puis si j'ai passé par là aussi, j'ai commencé ma carrière de coach chez Energy Cardio. Puis l'affaire, c'est que vite, il a fallu que j'apprenne des skills pour gérer ces personnes-là parce que c'était le trois quarts de mes clients, tu sais.
Et puis, justement.
C'était extrêmement difficile parce que finalement, c'est ça, tu te rends compte que, OK, on va s'entraîner, mais ils sont tellement limités que finalement, ils n'ont pas de variété d'exercices. C'est très difficile de progresser avec eux autres. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, si tu ne fais pas bien ta job, ils abandonnent, tu sais. Puis ça, c'est justement très lourd sur, je pense, notre mental. Puis, tu sais, on est là pour aider du monde, finalement. Puis quand on n'arrive pas à aider du monde, c'est là que ça devient très difficile. Puis je pense que ça vient de là, finalement, ta frustration que tu parlais d'un peu tantôt, là.
Justement, 100%. Et aussi, comme, tu sais, des douleurs musculo-squelettiques, souvent, ça va être ça, la limite sur sur nos capacités physiques et notre willingness, disons, de faire du travail, tu sais. Si, rendu au gym, on veut s'améliorer, mais on a une peur de se faire mal d'une façon permanente à cause que notre corps nous donne du feedback et on a de la douleur, soit aiguë avec des exercices ou bien de façon chronique, comme ça limite vraiment le cheminement physique, physiologique, psychologique, le développement dans toutes ces catégories-là de l'individu peut être limité par la douleur. Et aussi, en plus de ça, c'est quelque chose qui est universel. T'sais, à moins que tu aies comme genre des gènes vraiment uniques et différents que tu ne ressens pas de la douleur, chaque être humain va ressentir de la douleur à un certain point. Et si on y pense, le processus d'exercice, c'est un processus dans lequel on stresse le corps. Et à cause de cette stress-là, on a espoir que ça crée des adaptations favorables pour l'individu, mais ce n'est pas incommun, ce que ça se dit, au fur et à mesure qu'on stresse le corps, que des fois, on retrouve une limite de tissu ou bien d'une jointure, qu'on est comme « Ah, shit, OK, on est allé un peu trop loin ». Puis il faut être capable de naviguer ces situations-là à cause ça fait partie de notre industrie. Comme tu as dit, fait que la majorité de mes clients avaient des trucs, puis j'avais aucune espèce d'idée comment leur aider. Fait que je travaillais avec des physios, des ostéos, des chiros pour me guider. Et ce que je remarquais, c'est que à peu près 30 à 40 de mes clients réagissaient d'une façon favorable aux recommandations de les thérapeutes, mais en grande partie, j'avais beaucoup de clients, disons à peu près 50% qui ne changeaient pas, puis qui ne s'amélioraient pas. Puis c'était comme le fardeau était c'était le mien, là, c'était à moi, puis j'étais comme, mais là, tu sais, je fais tout ce que le professionnel me dit de faire, puis mon client à qui j'ai fait plusieurs promesses, qui investit des centaines, des milliers de dollars, ne s'améliore pas. Puis pour moi, puis j'imagine c'est la même affaire pour toi, j'ai commencé dans l'industrie d'entraînement pas pour être un millionnaire. Si tu veux être millionnaire, tu devrais peut-être faire quelque chose de différent. Ouais, comme be a stock trader, des affaires de même. Fait que j'ai pas commencé, mais on s'entend, tu peux quand même faire une excellente carrière dans notre domaine, on s'entend?
Oui.
Mais je pense que la réalité est, c'est que la majorité des gens ne commencent pas dans l'industrie pour être millionnaire. On commence dans l'industrie pour aider du monde. Right? Exact. Je pense qu'on est aligné là-dessus. Et fait que là, il y avait du monde que c'était comme tabarnak, je suis pas capable de leur aider. Puis il y avait comme ça créait un stress philosophique quasiment pour moi. C'était comme this is not okay. C'est pas correct. Faut que je trouve des solutions. La raison pour laquelle que je mentionne tout ça, c'est que c'était vraiment ça qui m'a mené dans une certaine direction dans ma carrière. J'ai pris des cours de Muscle Activation Technique, donc MAT. Puis cette organisation, comment il disait que genre le tightness musculaire est créé en réponse à des faiblesses. Puis là, j'étais comme, c'est différent. Tu sais, au lieu de juste étirer un muscle, disons, l'ischio-jambier, on va regarder à peut-être entraîner le quad, disons, ou entraîner les autres fléchisseurs de la hanche, par exemple. Là, j'ai dit, c'est une perspective différente. Fait que là, j'ai fait leur cours. Ça m'a mené à faire le programme RTS. J'ai rencontré, je dirais, mon premier mentor, Peter Chiasson, qui malheureusement est décédé il y a peut-être une dizaine d'années. Mais j'ai rencontré Peter à travers de MAT, puis c'est lui qui recommandait RTS, fait que j'ai fait RTS. Puis ça l'a vraiment ouvert ma perspective par rapport à l'entraînement. À cause là, il commençait à parler de, des bras de maman, des lignes de force, torque, des joint forces, resistance profiles. Puis là, j'étais comme, holy shit, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Et fait que j'ai fait leur programme d'entrée, disons, ce qu'ils appelaient le RTS 1, 2, 3. Fait que c'était trois différents week-ends, deux jours chaque, vraiment axé vers la mécanique et l'anatomie de la colonne vertébrale. Pour le premier week-end, le bas du corps, le deuxième, et le haut du corps, le troisième. J'ai fait ça, j'ai capoté. Ça a vraiment aidé mon travail comme entraîneur, non seulement en tant que réhabilitation de douleur, mais aussi performance, que j'avais quelques athlètes, dont des athlètes de powerlifting, entre autres, et des athlètes de course, comme qui faisaient des 10 km, des demi-marathons, des affaires de même. Et je remarquais que, fuck, comme ces perspectives-là aident beaucoup, puis ont vraiment ouvert mon cerveau et mon état d'esprit. À des différents concepts. Puis, en fait, c'est vraiment, tu sais, tout à l'heure, on parlait de pensée critique. C'est vraiment RTS à qui je dois, je suis vraiment reconnaissant à Tom, donc le founder de RTS et aussi leur programme, d'avoir vraiment créé et d'avoir, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, but to have nurtured critical thinking within me. Parce qu'auparavant, tu sais, comme un nouveau entraîneur, on a des systèmes souvent quand même assez rigides qui fonctionnent pour un gros pourcentage du monde, mais il manque un certain montant de nuances. Puis moi, j'étais rendu à un point dans ma carrière où que j'étais prêt pour cette nuance-là, et c'est RTS qui m'a rencontré à ce moment-là puis qui a vraiment déclenché mon apprentissage. Je l'ai interrompu il y a quelques secondes.
Ouais, mais tu sais, je pense que RTS, ça t'a comme ouvert justement l'esprit à savoir, comme ça t'a donné l'opportunité d'avoir un esprit critique un peu plus là-dedans, parce que ça t'a donné des outils finalement de pouvoir penser autrement. Donc, dans le fond, c'est juste, puis on met les lunettes RTS quand on regarde un exercice, des trucs comme ça, mais c'est l'idée, ouais. Je pense que si on parle des coachs en général qui débutent dans l'entraînement, je pense qu'une des frustrations qu'on développe aussi dans ce domaine-là, c'est que finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on apprend des protocoles parce que on n'est pas assez, on n'a pas encore eu l'expérience et le temps justement de connaître différentes choses dans le domaine, donc d'augmenter nos connaissances finalement. Puis on apprend des protocoles, puis à un moment donné, on frappe un mur en savoir au niveau des résultats clients, puis à quel point on est capable d'aider les clients. Et c'est là justement qu'on se remet en question, puis en fait, c'est la fameuse courbe d'apprentissage aussi, tu sais, comme au début, on pense qu'on connaît tout, puis à un moment donné, là, plus on en connaît, moins on en sait, puis dans le fond, on peut corréler ça avec exactement ce phénomène-là, mais l'idée, c'est, dans le fond, toi, ta lumière, ça a été finalement RTS qui a pu vraiment t'amener à un autre chemin, finalement.
Oui, à 100%. Puis, tu sais, auparavant, c'était juste des systèmes. Tu sais, un client a une douleur d'épaule, OK, fait des YTWL, disons, ou fait des push-ups scapulaires. Puis, tu sais, pour certains clients, ça fonctionnait, mais il y en avait autres que ça ne fonctionnait pas. Puis là, c'était comme, coudonc, tu sais. Puis là, de là venaient les frustrations la recherche de réponses. Puis ça m'a mené, encore une fois, à MAT puis RTS. Bref, RTS, ça a vraiment un gros impact dans ma carrière, non seulement en tant que les outils que j'ai utilisés, que j'ai appris, mais aussi, encore une fois, la pensée critique que ça l'a encouragé. De là, je me suis dit, OK, mais il faut que les autres entraîneurs sachent ou qu'ils aient la chance d'apprendre ce que moi, je viens tout juste d'apprendre. Fait que là, j'ai fait leur cours de maîtrise. Essentiellement, je suis retourné à Ottawa après le dernier week-end. J'habitais quand même chez mes parents à ce temps-là. Puis je suis comme, mom, dad, j'ai besoin de 8 000 $. à cause, il faut que j'aille. Ouais, j'ai fait un gros spreadsheet. Je leur ai assis. Puis je suis comme, OK, je fais mon pitch. Puis je suis comme, j'ai besoin du cash pour que je puisse aller faire mes études aux États-Unis, à Oklahoma. Il y a vraiment une raison. Il y a seulement une raison pour laquelle que les gens vont à Oklahoma, puis c'est pour faire RTS, essentiellement. fait que je suis allé là-bas, essentiellement, pour faire leur cours de maîtrise, qui est quand même un programme de 6 mois, quand même assez intense. J'ai fait ça. Ça l'a renforcé que non seulement j'aimais la matière, mais j'étais bon à la matière, passionné de la matière, puis je voulais enseigner la matière. Fait que,
puis tu étais surtout bon aussi à vendre l'idée à tes parents de te passer les 1 000 $.
Honnêtement, c'est drôle. Ça fait quelques mois, j'ai regardé pour le spreadsheet. Je ne peux pas le trouver. Mais c'était comme le premier spreadsheet que j'ai fait de ma vie. J'ai dit, OK, je vais aller dans Excel. Ça va être vraiment sharp. Mon père va être impressionné. en fin de compte, je ne sais pas s'il était impressionné, mais ça a fonctionné. J'ai eu le cash qu'il fallait pour aller prendre le cours. Fait que j'ai fait ça j'ai fait le cours. J'ai ensuite fait mon testing avec Tom et durant mon examen, Tom il m'a dit « Quand est-ce que tu peux commencer à enseigner? » Là, j'étais comme « So I passed? » And he's like « Of course you passed! » And I was like « Oh, fuck! » Okay. Fait que là, j'ai enseigné pour RTS pendant à peu près, je pense, 3 ou 4 ans. J'étais, disons, je pense, l'instructeur principal ou le seul instructeur pour le Canada. J'enseignais en grande partie de Toronto, quelques cours à Ottawa aussi. Et là, il y a quelques années que, pour résumer ça, là, la direction de RTS était un peu différente de la direction dans laquelle que moi, je voulais aller puis enseigner. Entre autres, je voulais impliquer un peu plus d'informations par rapport au système nerveux et aussi au processus du phénomène de la douleur, qui, comme on a dit, on est quand même assez important pour les entraîneurs à comprendre pour qu'on puisse le manipuler. Mm-hmm. Puis c'était comme genre un... Oui, vas-y.
Excuse-moi, est-ce que tu as eu la même, finalement, frustration en sens que là, tu étais beaucoup dans la biomécanique, tout ça, puis est-ce que tu as frappé un autre mur, finalement, avec tes clients pour dire comme j'ai besoin d'aller ailleurs, trouver un nouveau système nerveux, dans les autres paramètres, finalement.
Oui, justement. Fait que dans RTS, ils ont un concept qui s'appelle le Orchestration Model. Puisque le Orchestration Model est, c'est un modèle qui vise d'expliquer le processus qui arrive à peu près 100 fois par seconde qui crée les outputs musculaires. Fait qu'essentiellement, de ce qu'on parle dans ce processus-là, c'est qu'on parle du système nerveux. Mm-hmm. Mais c'était vraiment un modèle qui avait un peu, il y avait comme des gaps dedans un peu. C'était un excellent modèle, mais c'était comme, OK, ça m'a donné un petit goût du système nerveux. Puis là, je me suis dit, OK, il me semble qu'il y a plus à apprendre ici. Tu sais, en ayant ces discussions-là, it made it obvious qu'il y avait des trous. Puis moi, c'était comme, il y a des réponses, il y a de quoi dans ces trous-là, c'est ça, c'est certain. Fait que c'est là que j'ai aussi fait des études avec Z-Health. C'est de là que j'ai vraiment commencé à discuter avec Mathieu Boulay, puis prendre des cours avec lui pour mieux comprendre le système nerveux central. Puis ça, ça a mené à des à autres cours avec Greg Lehman, qui est un physiothérapeute canadien, etc., etc., beaucoup de lectures. Donc, bref, j'enseignais pour RTS, puis ensuite, je me disais que je voulais intégrer autres informations que je trouvais très pertinentes à cause, comme tu as dit, encore une fois, j'ai découvert une nouvelle limite, disons la limite biomécanique. Ça, c'est une vraie limite, là, par rapport, entre autres, par rapport à la réhabilitation puis la douleur. Puis, je voulais intégrer ça. Puis, c'était à ce niveau-là que moi et RTS, on était un peu moins alignés. Mm-hmm. Donc, c'est de là que j'ai commencé à vraiment faire ma propre affaire uniquement avec mon organisation qui s'appelle The Exercise Mechanic, qui vise à enseigner des entraîneurs par rapport à la biomécanique, qui est important, mais ce n'est pas toute l'histoire. Et aussi d'informer les entraîneurs par rapport à la science de la douleur, en fait, et les processus nerveux qui mènent au phénomène de la douleur. Fait que ça, c'est un peu par rapport à moi aussi. Tu sais, autre affaire, je sais pas, j'aime ça des tacos, puis je suis un peu impulsif dans le sens que quand je trouve quelque chose que je trouve vraiment fucking hot, I go hard. Puis ensuite, je change. Fait que j'ai un peu du TDAH là-dessus. Fait que ça, c'est un peu par rapport à moi.
Ouais, puis tu sais, dans le fond, je trouve que ce qui a été mentionné de bien, c'est que tu t'es plongé dans l'univers de la biomécanique, mais après ça, tu t'es rendu compte que, OK, c'est pas juste ça. Donc, il y a d'autres choses, puis c'est vraiment un tout. Puis qu'est-ce que tu enseignes dans tes formations, justement, puis qu'est-ce que j'ai perçu, c'est que, tu sais, quand tu enseignes, on est allé faire une exploration avec d'anatomie sur cadavre, tout ça, puis tu sais, même encore là, tu vois les insertions, tu vois les origines pour de vrai, puis finalement, tu te rends compte que, OK, c'est beau tout ça, mais il y a beaucoup plus qui peut se passer que juste le système musculo-squelettique. Puis avec les clients, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire que quand la personne marche sur deux pattes puis un être humain devant nous puis elle a un problème, je pense que c'est faut s'outiller en tant que coach pour justement avoir le plus de résultats possible parce qu'au final, on a commencé ce job-là pour aider du monde. Là, puis il faut tout le temps revenir à cette essence-là parce que souvent, je pense que dans le monde, puis je vais revenir avec qu'est-ce que tu as dit au départ du podcast dans le sens que tu as parlé du futur de l'industrie puis tout ça. Puis je veux parler de ça un peu dans le fond de ta vision du futur de l'industrie puis ton futur à toi dans le sens que c'est où tu te diriges. Mais l'idée, c'est que de plus en plus, on voit l'automatisation, okay? Tant au niveau du coaching, mais aussi au niveau de la réhabilitation, par exemple, que c'est t'as mal à l'épaule, voici quel exercice qu'on fait. T'as mal à l'épaule, voici, comme t'as mal au dos, voici quel exercice qu'on fait. Donc, sans analyser l'individu en arrière puis sans porter attention à cette personne-là. Et donc, j'aimerais que tu me parles un peu de ta vision de c'est quoi le futur de l'industrie, tant au niveau du fitness que, tu sais, quand je parle du fitness, au niveau de l'entraînement physique en soi, mais aussi au niveau de la réputation, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut voir aller en arrière de ça?
Ouais, mais c'est une très bonne question. Je pense les détails, je ne connais pas les détails dans le sens que je ne sais pas exactement comment ça a l'air, mais je pense que ça va devenir de plus en plus clinique. Dans le sens que, tu sais, si on regarde il y a peut-être 20 ans, c'était quoi l'entraînement? L'entraînement personnel, en tout cas, c'était quoi un personal trainer? T'sais? C'était quelqu'un qui portait pas de manches, qui prenait beaucoup de stéroïdes, qui avait un bon tan, qui avait des gros biceps, puis comme, that's kind of it. Puis t'entraînais du monde pour avoir des gros muscles, puis être vraiment comme shredded, puis that's it. Là, si on regarde où qu'on est comme industrie, tu sais, oui, on fait ça encore de nos jours, mais aussi, il y a un aspect plus médical. On a plus une appréciation de la réalité de la chose qui est que l'entraînement aussi a beaucoup de bénéfices, non seulement en tant que like longevity. Mm-hmm. C'est quoi le mot?
La longévité, justement.
C'est le même mot, OK. C'est bon, merci. Donc, tu sais, l'entraînement puis être plus actif, c'est super important quand c'est bien à la longévité, la santé physique, mentale, notre santé physiologique, réduction de of illnesses, et aussi réhabilitation. T'sais, fait que ça devient, si on regarde même juste du cheminement dans les derniers 20 ans, c'est devenu de plus en plus clinique. Puis là, on est rendu à un point que, je pense, comme industrie, on réalise de plus en plus notre pouvoir et l'importance du travail qu'on fait. Et que même si, comme même avant, avant qu'on avait une appréciation de la réalité médicale de ce qu'on faisait, même sans cette awareness-là, on avait quand même un impact vraiment favorable sur la santé des gens. Mais là qu'on le réalise, je pense que les gens vont prendre ça encore plus au sérieux. Et grâce à ça, je pense que ça va devenir de plus en plus médical. Et j'espère qu'avec le temps, que les formations comme de baseline nécessaires pour que les gens puissent rentrer dans le domaine, je pense qu'ils vont devenir de plus en plus exigeants. Mm-hmm. Je pense que ça va être une bonne affaire. Oui. Et encore une fois, grâce à ça, je pense que la qualité de notre service va s'améliorer and we'll be more accountable. Mm-hmm. Fait que je pense qu'on va plus dans cette direction-là. On va pas dans la direction de genre être plus laisser faire puis être plus casual, disons, avec ce qu'on fait. Mais je pense que comme industrie, on va devenir de plus en plus sérieux et plus en plus précis et médicaux avec nos interventions.
Mm-hmm. Super, super bon ça. Parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu des deux, c'est-à-dire que on voit vraiment comme le quick voici ton plan, surtout dans le monde d'entraînement. C'est comme voici ton plan, puis c'est du généraux, puis tout ça. Mais il y a aussi, je pense que c'est les deux extrêmes qu'on voit de plus en plus aussi, dans le sens que il y a des gens qui vont faire extrêmement personnalisé, puis il y a des gens qui vont faire très peu personnalisé, vont faire du volume versus la qualité ensuite. Donc, je pense que les deux ont sa place aussi à un certain point.
Justement. Ouais. Puis comme tu sais, c'est pas pour dire que c'est juste des trucs précis qui sont importants. Comme tu sais, de l'entraînement général, c'est aussi très important. Puis ça peut être très approprié pour quelqu'un à un certain point dans leur cheminement. Puis tu sais, je pense comme il y a des parallèles avec ça et aussi ma philosophie comme éducateur. Et je vais te le partager. Puis ce parallèle-là est que je pense que c'est important, même comme par exemple, quand des nouveaux entraîneurs commencent dans le domaine, oui, tu vas avoir des systèmes. Puis oui, on va te donner des trucs qui sont, comme on dit en anglais, des half-truths. Donc des trucs qui sont comme genre à moitié vrai. Que tu sais, ça va fonctionner pour 60, 70 ou peut-être 80 % de la population, mais ce n'est pas une vérité avec un V majuscule. Et c'est correct. Puis, il faut que tu commences à ce point-là. Mais je pense que il faut dire aux entraîneurs et aussi que leur apprentissage n'arrête pas là. Je pense que c'est important de leur dire ça dès le début de leur cheminement. Leur dire comme, OK, voici le continuum de ton apprentissage, puis de où qu'on va commencer, puis où qu'on va se rendre. Ça va être plus simple au début, puis ça va être plus complexe vers la fin. Et à cause que tu es nouveau, on te commence à l'étape numéro 1. Là, c'est la même affaire avec des clients. C'est que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas des grosses, disons, des grosses blessures ou des raisons vraiment spécifiques pour lesquelles que quelqu'un a besoin de quelque chose de vraiment précis, des fois, c'est correct de commencer quelqu'un sur un truc vraiment général. Et là, avec le temps, de rendre ça de plus en plus spécifique. Au fur et à mesure. Fait que c'est pas, encore une fois, c'est pas que un est bon et l'autre et l'autre c'est la merde. C'est vraiment plus quand est-ce qu'on utiliserait une stratégie plus générale comparée à une stratégie plus complexe. Puis, comme il y a une expression anglaise qui est, je sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est super morbide comme analogie, mais c'est « don't throw the baby out with the bathwater ». As-tu déjà entendu ça?
Oui, j'ai déjà entendu.
C'est super morbide, mais c'est que, tu sais, en réalisant qu'il y a des problèmes ou bien des opportunités ou un manque de précision avec un truc général, faut faire attention de pas juste dire « OK, des trucs généraux, c'est de la merde puis on l'utilise plus ». C'est clair que pour certaines personnes, c'est utile. Puis la question qui est importante, c'est de se dire, OK, quand est-ce que c'est utile? Puis quand est-ce qu'il faut être plus précis? Puis encore une fois, ça, cette question-là, c'est une question de pensée critique. Puis d'être capable de se dire, encore une fois, quand est-ce qu'on l'utilise comparé à juste une question simple de genre, est-ce que c'est bon ou mauvais, genre. Mm-hmm.
Puis, au travers de ton parcours, comment t'as fait pour justement avoir cet esprit critique-là ou développer cet esprit critique-là? Tu sais, on parlait de biais tantôt. Je pense que, justement, les biais cognitifs puis l'esprit critique sont de pair, c'est-à-dire qu'on peut penser dur comme faire quelque chose, puis à un moment donné, on reste pris avec ça longtemps. Comment qu'on se fait pour pas rentrer dans cette game-là ou s'en défaire, finalement? Et comment qu'on fait pour selon toi, selon ton parcours que tu as vécu, de développer cet esprit critique-là au fil du temps?
C'est intéressant. Bien, je pense que j'ai eu des très bons mentors, encore une fois. Peter Chiasson, rest in peace. Lui, il m'a dit quelque chose au début de ma carrière, puis il me l'a dit en anglais, fait que je vais le dire en anglais, puis peut-être on peut traduire après. But he said, if you're uncomfortable with ambiguity, you're in the wrong profession. So essentially, if you're uncomfortable with it depends, you shouldn't be a trainer. Mm-hmm. Puis ça, j'ai mon mentor à qui, tu sais, je l'avais vraiment mis sur un pedestal, là, tu sais. Lui, il m'a dit ça dans comme ma troisième année comme entraîneur. Fait que j'étais très réceptif à ce qu'il disait. Fait que ça, je dirais, c'était la première affaire, c'est que j'ai été chanceux d'avoir un mentor qui m'a dit ça relativement tôt dans ma carrière, comparé à autres personnes à qui ou pour qui, tu sais, eux autres, ça fait 15 ans, qui avaient seulement des perspectives biomécaniques, disons, par rapport à de la douleur, et que là, ils commencent à lire des études qui disent que, disons, la mécanique, c'est juste peut-être 30 % de l'équation, puis eux autres sont fermés d'esprit à cause, ils ont que de l'épreuve, disons, durant leur carrière, que leurs biais et leurs croyances sont vrais. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis.
Ouais.
Fait que je pense que j'ai été un très chanceux que, que tôt dans ma carrière, mon mentor m'a vraiment comme, il m'a préparé pour ça.
Mm-hmm. Génial. Puis une autre question aussi, c'est on a parlé de frustration dans le podcast plutôt que finalement comme t'as remonté des défis selon les frustrations que tu as vécues dans ta vie. C'est sur quel défi tu es présentement? C'est quoi ta frustration présentement? Puis qu'est-ce que tu cherches à accomplir avec ça?
Avec le défi que j'ai en ce moment, ça c'est une excellente question, je l'adore. Comment je dirais ça donc? C'est de savoir par où commencer. Mm-hmm. Donc, utilisons. Puis comme tu as mentionné au début du podcast, avec mes clients en personne, j'ai tendance de travailler avec des gens qui sont résistants à la physiothérapie, masso, chiro, etc. C'est avec ces gens-là que j'ai tendance de travailler, ou bien des gens avec des traumas. Et puis, quand on regarde, disons, quelqu'un qui a une douleur au genou, disons, quand on regarde non seulement à la littérature, mais quand on regarde aussi à comme, genre, juste purement en pratique, il y a beaucoup de gens qui ont, disons, le même symptôme au niveau du genou, comme par exemple douleur sur la section plus latérale du genou, et que on peut soit, tu sais, faire un peu de foam rolling du tractus iliotibial, ou, tu sais, on peut faire du trigger point sur le mollet, on peut faire du travail dans le fessier. Et que, comme il y a beaucoup de différentes stratégies qui peuvent aider du monde. Mm-hmm. Fait qu'on connaît ça d'une façon plus comme anecdotal, mais aussi quand on regarde comme la science de la douleur n'a pas nécessairement, à moins que c'est vraiment une blessure vraiment aiguë et vraiment précise, mais de façon générale, l'expérience de la douleur, donc le phénomène de la douleur, n'a pas une relation causale avec un changement mécanique, un changement de cinématique en tant que comment que le corps bouge ou bien que comment que les muscles fonctionnent, ni n'a pas une relation causale avec une activation vraiment particulière du cerveau. Fait que c'est le genre d'affaire que le pattern de la douleur change d'un côté système nerveux et aussi de côté mécanique, toujours de personne à personne. Et qu'il y a beaucoup de différentes interventions, qu'on peut faire pour aider du monde. La question, pour répondre à ta question, la question que j'ai en tête, c'est par où qu'on commence avec quelqu'un? Puis quelle intervention va être une intervention qui va être puissante et efficace pour un individu? C'est ça la question pour moi. Un de mes autres mentors, Isaiah Redfern, qui est un chiro-neuro-wizard à Ottawa, qui est génial. Lui, il m'a dit à un certain point, il m'a dit, puis il l'a dit en anglais, fait que je vais dire en anglais, il a dit, « The big question is, what's going to be your way in?
Mm-hmm. »
Donc, c'est pas, la question n'est pas nécessairement, est-ce que le foam rolling ou bien ça peut être efficace? La question est, quelle intervention que le système du client va bien recevoir, disons? C'est ça la question, puis c'est pas toujours clair. Puis j'imagine que ça t'est arrivé aussi dans ta carrière que, disons que tu fais quelque chose pour client X, pour, par exemple, leur douleur du genou, ça fonctionne super bien. Là, t'es comme « nice ». Puis là, client Y ou Z rentre avec un symptôme semblable, puis tu fais la même affaire, puis ils ont une réponse différente. Puis peut-être c'est comme une réponse favorable, mais un peu moins puissant, ou bien zéro réponse. Puis des fois, c'est néfaste pour leur corps, tu sais. Fait que c'est avec ça que j'ai beaucoup de questions en ce moment. Puis quand je fais du mentorat avec autres entraîneurs, ils me demandent, tu sais, par où commencer. Puis j'ai beaucoup de misère à répondre ça. Puis tout ce que j'ai que des questions pour eux. Souvent, j'ai pas de réponse. Puis pour eux, ça peut être un peu frustrant. Fait que je dirais que c'est ça. Toi, est-ce que tu as du insight par rapport à ça? Comment que toi, tu fais ce cheminement-là, toi?
Ouais. Mais tu sais, quand je me demande par où commencer, finalement, j'essaie tout le temps de décortiquer c'est quoi l'objectif du client en arrière de ça, bon, pourquoi il me consulte, et deuxièmement, c'est quoi ses limitations présentement et futures. Puis c'est les deux questions que je me pose dès le départ, parce que le client vient voir pour un objectif, et donc j'essaie de l'aider par rapport à son objectif. Point. Mm-hmm. Parfois, il va falloir détourner ça un peu, étant donné qu'il y a des limitations qui sont présentes. Donc, par exemple, la personne veut prendre la masse musculaire, avoir des plus grosses épaules, mais elle a de la difficulté à lever son épaule sur le côté. Donc, évidemment, prendre la masse musculaire au niveau des épaules, c'est un peu plus compliqué. Donc, il va falloir détourner un peu le chemin. Donc, évidemment, là, je vais faire affaire avec d'autres personnes pour ça, mais l'idée, c'est que faut prendre en compte ces limitations. Puis quand on arrive dans les limitations, c'est là que c'est beaucoup plus complexe. Donc, surtout quand on parle de douleur ou d'inconfort, ça peut être extrêmement complexe, comme que tu viens de mentionner. Et j'ai un peu de difficulté aussi à savoir par où commencer dans ces limitations-là. Et donc, j'ai pas de réponse. L'idée, je pense que c'est faut déterminer comme la meilleure, mettons, si ça devrait. Qu'est-ce qui fait plus de sens finalement selon le client? On se lance. Et après ça, on regarde les résultats, tu sais, finalement. Donc,
justement.
Je suis tout en parallèle avec les clients dont en perte de poids. Okay? Donc, tu sais, c'est impossible de déterminer le nombre de calories qui est nécessaire théoriquement pour que la personne perde du poids ou elle gagne du poids. Donc, c'est-à-dire que là, il y a des formules qui existent. Mettons, en tant que coach, ce qui est accessible, c'est les formules de calories. Donc, évidemment, il y a peut-être une marge de manœuvre de 30% là-dedans. Donc, ça se peut qu'on fasse le calcul. Ça nous donne, mettons, je sais pas, 2000 calories pour perdre du poids. Mais finalement, la personne mange 2000 calories théoriquement, et il n'y a rien qui se passe. La personne ne perd pas de poids. Visuellement, il n'y a pas de changement corporel. Et donc, même si la théorie dit 2000 calories, va falloir creuser un peu plus les calories, descendre les calories pour créer un changement à ce niveau-là. Donc, je le vois un peu de la même façon. C'est-à-dire que si le client a une limitation quelconque, qu'est-ce qui fait du sens? Sur quoi qu'on peut se baser le plus possible? Et après ça, dans le fond, on fait notre intervention là-dessus, et si est-ce que ça fonctionne ou non. Après ça, on est capable de changer notre fusil d'épaule, mais c'est sûr que présentement, je pense que c'est impossible de donner une réponse. Comme on commence par là dans une situation, et on commence par là dans une situation, puis je sais pas si on va avoir la réponse un jour, mais c'est une belle quête, justement, à aller chercher, parce que finalement, c'est tellement large, finalement, là, mais
justement.
Tu sais, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand on commence en tant que coach, je sais pas si tu te rappelles, mais la première chose qu'on se dit, souvent, c'est on a le plan d'entraînement, qu'il faut bâtir un plan d'entraînement, puis là, on ne sait pas par où commencer.
Puis, ouais.
On fait comme, c'est le syndrome de la page blanche. Est-ce que je mets 3 séries, 4 séries? C'est la même situation.
2 séries, ouais.
Mais juste extrêmement beaucoup plus complexe.
Justement.
Puis c'est là qu'on rajoute des morceaux dans le casse-tête, puis c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais je pense que ce phénomène-là, je pense qu'on reste tout le temps avec, là, finalement, parce qu'on cherche tout le temps à avoir. Ben, on cherche tout le temps à s'améliorer d'un, puis à avoir le meilleur service possible pour nos clients.
Oui, justement. Et juste pour comme revenir là-dessus, tu sais, auparavant, tu m'as demandé c'est quoi qui a aidé à comme encourager une pensée critique aussi. L'autre affaire qui a vraiment encouragé une pensée critique, c'est l'apprentissage. Mm-hmm. C'est au fur et à mesure de prendre des cours et de recevoir des différentes perspectives, ça remet en question des fois nos croyances qu'on avait auparavant. Et quand on a un esprit ouvert, puis encore une fois, grâce à mes mentors précédents, j'avais un esprit ouvert ou relativement ouvert. Fait que, tu sais, j'étais open à des challenges. Puis au lieu de juste de défendre ma position, je me suis dit, OK, ben c'est quoi? Pourquoi que je fais ce travail-là? Est-ce que je fais ce travail-là pour avoir raison ou est-ce que je fais ce travail-là pour aider du monde?
Ouais.
Puis, fait que, tu sais, on s'entend, la réponse est claire. C'est, on fait ce travail-là pour aider du monde. Fait que, tu sais, c'est pas important nécessairement. Comme, faut pas être attaché à avoir raison. C'est, faut exclusivement être attaché à si on fait du progrès, oui ou non.
Exact.
Puis, tu sais, il faut être capable de dire, s'admettre à nous-mêmes et des fois à nos clients que peut-être qu'on avait tort ou bien qu'on connaît pas la réponse.
Mm-hmm.
Puis, ouais. Personnellement, je pense que c'est important. Puis, je remarque que je fais ça souvent avec mes clients dernièrement. Ils vont dire, OK, comme par exemple, il y avait une madame que j'ai rencontrée hier, puis elle est comme, OK, fait que c'est quoi qu'on va faire? Puis là, je suis comme, je sais pas. Dans le sens, comme, tu sais, je peux pas aller genre à la bibliothèque puis acheter un livre qui a comme le hack ou les hacks puis les cheat sheets pour client X, là. Faut prendre nos décisions ensemble, puis c'est une relation, puis on va le naviguer ensemble, puis on peut, tu sais, on peut manipuler toutes ces variables-là pour t'aider, mais les détails, en ce qui concerne comment que ça va avoir l'air pour toi, c'est impossible de le prédire.
Mm-hmm.
Fait que, c'est ça.
Exact, c'est ça. C'est un certain point que c'est de laisser erreur aussi, à ce justement. Point-là. T'sais. Puis j'aimerais ça revenir sur, tu as dit de l'apprentissage qui peut nous permettre justement d'en découvrir un peu plus sur comment aborder les clients ou comment rentrer dans une situation finalement, tout ça. Puis une des façons d'apprendre, je ferais parallèle parce que dans le fond, tu t'en vas faire un marathon en Italie, puis je pense que c'était pas ton dada non plus de faire du marathon. Puis l'idée, c'est, j'aimerais ça que tu me parles un peu, comme, c'est qu'est-ce qui t'est venu en tête en le sens que, OK, je vais faire un marathon. Juste pour sortir de ma zone de confort. Tu sais, c'est quoi ton ouais. but en arrière de ça? Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, Étienne n'est pas un fan de la course nécessairement. Donc, il s'inscrit
comme
à un marathon.
Zéro, ouais.
Puis il s'inscrit à un marathon. Puis j'aimerais ça savoir la raison pourquoi tu t'es inscrit à un marathon. Puis c'est quoi ton but en arrière de ça? Parce que je pense qu'il y a une raison assez logique en arrière. Mais...
Ouais, cool. Ben, j'apprécie la question. En fait, je l'ai faite à cause de David Goggins, pour être 100% honnête. Tu sais, je le voyais courir, puis tu sais, il parlait de comme, tu sais, comme « get out of your comfort zone » et ça, puis j'étais comme, tu sais, je suis prêt pour un challenge qui va vraiment me pousser. Puis juste pour comme donner un peu de contexte, tu sais, comme j'ai couru, avant de commencer à m'entraîner pour le marathon, j'avais seulement couru 5 km auparavant, quand je faisais mes études collégiales en technique des services policiers à Ottawa.
Mm-hmm.
Puis j'avais fait comme 5 km dans comme 38 minutes. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la marde, OK? comme tu peux quasiment marcher 5 km dans le même montant de temps. Et aussi, j'étais quelqu'un, quand j'étais jeune, qui avait quand même, j'aimais ça le basket, puis je jouais beaucoup aux autres sports. Mais ma limite à mon potentiel athlétique, c'était mon système cardiovasculaire mm-hmm. ou cardio-respiratoire. Tu sais, j'étais... Par exemple, au basket, j'étais vraiment bon à comme faire du ball handling, puis j'étais vraiment bon à comme faire des lancers de 3 points, des affaires de même. Mais durant la game, mon côté cardio, c'était ça ma limite, puis je me faisais dépasser toujours.
Mm-hmm.
Fait que ça a toujours été un problème pour moi. Et aussi, dans le contexte de développement musculaire, il y a beaucoup de gens qui... Je trouve que c'est moins un thing... dernièrement, mais auparavant, les gens, ils voyaient que le cardio, c'était comme, genre, fais pas le cardio parce que tu vas perdre tous tes gains, genre. Puis comme, tu sais, moi, je croyais vraiment à ça. Fait que c'était comme, fuck that, je fais aucun cardio, je fais que des biceps. Puis, tu sais, dans un certain sens, ça a fonctionné. Mais ce que ça a mené à, c'était un système cardiovasculaire et cardio-respiratoire vraiment pourri. Puis là, bref, fast forward, disons, ça fait à peu près un an. Quelqu'un m'a envoyé David Goggins, puis je commençais à écouter son stock. Puis j'étais comme, OK, tu sais, arrête de faire ta moumoune, là, puis comme, choisis quelque chose qui est vraiment difficile, vraiment hors de ton zone de confort. Je me suis dit, c'était en octobre de l'année dernière, je me suis dit, ouais, je m'inscris pour un marathon, je me donne un an pour me préparer. Puis, ouais, fait que je me suis donné ça vraiment comme défi pour me pousser comme individu. Quand je trouve quand on affronte ou quand on affronte, je pense que ça se dit, ouais. But when we push up against our limits of who we think we are, c'est un processus vraiment spirituel.
Mm-hmm.
Puis donc, grâce à l'entraînement pour le marathon, je trouve ça, comment je dirais ça donc? It's like broadening the horizons.
Mm-hmm.
Of who I thought I was, or de qui je pensais que j'étais. Fait que mon sens d'identité est en train de changer grâce à mon cheminement. Et aussi, pour être honnête, l'affaire qui est super cool aussi, c'est que grâce à mon entraînement, j'apprends beaucoup plus par rapport à l'entraînement cardiovasculaire et cardio-respiratoire. Ça, ça a beaucoup d'implications aussi avec mes clients. Puis, tu sais, c'était un endroit sur lequel on ne travaillait pas, à cause j'étais vraiment juste pas compétent par rapport à ça.
Mm-hmm.
Fait que là, j'ai un athlète avec qui je travaille en ce moment, puis on fait comme genre un entraînement ou un essai bêta, disons, à cause lui aussi veut s'entraîner pour une course. Fait que là, j'ai dit, OK, j'utilise un peu de mes connaissances pour l'aider. C'est super intéressant. Fait que je trouve... C'est vraiment stimulant d'un côté cognitif aussi.
Je voulais parler de ça parce que, tu sais, quand on fait quelque chose que... Mais souvent, dans le fond, dans la vie, on fait des choses dans lesquelles on est bon, OK? Et quand on n'est pas bon, on arrête de les faire, OK? Donc, c'est souvent un pattern qu'on a. Et je pense que, justement, le fait de faire des choses qu'on n'est pas bon en soi, on peut augmenter, améliorer nos skills là-dedans. Puis d'autant plus qu'on parlait des biais. Puis je pense que c'est une des façons d'arrêter d'avoir des biais cognitifs, c'est justement... de s'exposer aux choses qu'on n'est absolument pas bon ou on n'a aucune idée comment ça fonctionne. T'sais. Et donc, mm-hmm. c'est comme ça qu'on justement, on peut améliorer dans le fond notre apprentissage, puis justement, on s'expose à des choses qu'on n'est pas habitué ou qu'on est moins bon. Et donc, on peut justement ouvrir nos horizons, comme tu as dit, puis faire en sorte qu'on est moins pris avec un biais cognitif, puis ça fait en sorte qu'on justement qu'on sent notre zone de confort en soi. Là,
justement, puis s'il y a un attache, si on est attaché, ou si on reçoit, disons, notre valorisation à travers de, disons, de notre compétence dans des différents domaines, ça mène d'une façon vraiment prédictible à une certaine rigidité
mm-hmm.
de croyance et aussi d'esprit. Fait que c'est important de se pousser pour qu'on so that we don't value ourselves for being good or being right.
Mm-hmm.
Mais que, genre, on reçoit notre valorisation par rapport à notre capacité d'apprendre.
Mm-hmm.
Ça, personnellement, tu sais, c'est vraiment la grosse différence entre un fixed et un growth mindset, là, tu sais. Puis je sais que vous autres, vous connaissez ça beaucoup. Mais c'est très important, for sure.
Je pense que ça résume bien le podcast en soi. Donc, merci d'avoir passé le podcast. Puis, tu sais qu'on peut te rejoindre, Étienne, sur les réseaux sociaux ou peu importe.
Oui, for sure. Fait que, donc, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai une page personnelle et aussi une page pour ma business. Ma page personnelle, c'est E-Asselin. _ official. Et ma page pour The Exercise Mechanic, c'est @ The Exercise Mechanic. Et aussi, j'ai aussi un site web pour The Exercise Mechanic qui est www.theexercisemechanic.com. Fait qu'ils peuvent me checker là-dessus aussi.
Puis allez voir ça, c'est super, super bon. Donc, pour ceux qui aiment les podcasts, pour aimer cet épisode-là, donc je vous invite à faire un 5 étoiles sur iTunes, YouTube, iTunes, donc toutes les plateformes, à fond, peu importe sur laquelle vous écoutez. Donc, commentaire, 5 étoiles, donc c'est notre paye, on apprécie que vous fassiez. Et donc, sur ça, on se voit sur un autre épisode sur le podcast More Brain, More Gains.